Chapitre 74. Sans se retourner, Manvir court le long de l'étroit bâtiment du département d'astrophysique. Il s'arrête à l'angle, à bout de souffle, se couvre la bouche et s'efforce de tousser discrètement. De l'autre côté, trois fenêtres aveugles donnent sur la forêt qui s'étend maintenant devant lui. Manvir traverse le petit carré de pelouse qui mène aux amas de feuilles luisantes de pluie. Ses jambes le portent à peine et son cœur menace d'exploser dans sa poitrine. Dès qu'il aura repris son souffle, il s'élancera dans la forêt, descendra la pente raide vers le quartier de Kreftkriket et arrêtera une voiture sur la Roslagswegen. La pluie fait crépiter les feuillages sombres. Il réalise que Juna avait encore raison. Il revoit la planète devant la maison de la science. Pense à Miranda à l'intérieur, vêtue d'une blouse blanche et d'une visière en plexiglas. Un oiseau fait bruisser les feuilles d'un buisson. Manvir sent une fatigue extrême le gagner. Son corps est lourd, et en même temps, flottant et engourdi. Le bout de ses doigts picote étrangement. Il déverrouille la sûreté de son Six Hour, fait quelques pas sur le bitume, et regarde en direction d'Albanova. Personne. Le pont de la rotonde et son dôme brillent dans l'obscurité. Il voit la route, l'herbe, les vieux bâtiments avec leurs énormes cheminées. Tout est immobile. La pluie s'est intensifiée. Des mares d'eau se forment autour des bouches d'évacuation des caniveaux. Son pistolet tremble dans sa main et son dos est glacé de sueur. Ça ne peut pas avoir lieu. Il entend le mouvement des feuilles derrière lui et frissonne. La peur est ancrée dans un tel sentiment d'irréalité qu'il sent son corps étrangement lent. Une brindille sèche se brise à l'orée de la forêt. Des pas légers crépitent sur l'herbe humide, comme un lièvre en fuite. Il se dit qu'il devrait courir, mais il fait quelques pas hésitants. Quelqu'un s'approche rapidement. Manvir n'a pas le temps de se retourner. Il n'a pas conscience de son propre cri et n'entend pas la détonation. Mais lorsque l'écho ricoche entre les bâtiments, il se rend compte qu'il a perdu connaissance l'espace de quelques secondes. Il est étendu, face contre terre, sur le béton, près du bâtiment en granit. Il sait qu'il a reçu une balle dans le dos, comme les autres victimes. Il ne sent plus le bas de son corps et ne peut plus bouger les jambes. Son nez et ses dents ont percuté le sol. Il tourne la tête avec peine et voit que son arme se trouve dans le caniveau, à seulement quelques centimètres de sa main. Il a la sensation qu'un orage gronde dans ses oreilles. Soudain, la douleur vient briser la première vague d'endorphine. Il a l'impression d'être empalé sur une lance et soulevé du sol. Il cligne des yeux et voit une ombre s'approcher. Mara marche sur l'herbe mouillée, comme une araignée qui se dirige vers une mouche prise dans sa toile. « Mara, allait-il, ne fais pas ça. Écoute-moi, je sais que tu es en colère contre la police. Je te comprends, je suis d'accord, mais je n'ai rien à voir avec Jurek Walter. » Manvir respire rapidement entre deux accès de douleur. Une de ses mains s'est mise à trembler spasmodiquement. « J'ai une famille, » dit-il, mais ces mots ne sont plus qu'un murmure. « J'ai une petite fille, tu sais, aussi petite que toi quand tu es parti sur le bateau. » Manvir doit fermer les yeux. Il sent son corps vaciller sous l'effet de la douleur. Il comprend qu'il perd beaucoup de sang. Il se ressaisit et rouvre les yeux. Les baskets sales de Mara sont devant son visage. Ses lacets mouillés traînent sur le sol mouillé et les jambes de son pantalon sont retroussées et boueuses. Elle se penche en avant, récupère son arme, tourne autour de lui, fouille dans ses vêtements, trouve son portable et disparaît. Le sang de Manvir s'écoule vers le caniveau. Des bulles roses se forment au fur et à mesure que les gouttes de pluie frappent la flaque.